Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1945, Phénoménologie de la perception est le grand ouvrage de Maurice Merleau-Ponty et un texte majeur de la phénoménologie française. Son objet est moins de proposer une théorie scientifique des sens que de décrire comment le monde se donne dans une expérience vécue. Contre la séparation classique entre une conscience intérieure et un corps conçu comme objet matériel, Merleau-Ponty soutient que le sujet existe déjà engagé dans un milieu, orienté vers des choses, des tâches et des autres. La perception ne résulte donc ni de sensations isolées assemblées par un intellect, ni d'une pensée qui imposerait seule ses formes au réel. Elle exprime une relation originaire entre un corps vivant et un monde significatif. Le livre dialogue avec Husserl, Descartes, Kant, la psychologie de la forme et la neurologie, notamment afin de contester les réductions naturalistes. Exigeant mais décisif, il refonde l'analyse de la perception, de l'espace, du mouvement, du langage et de la coexistence avec autrui à partir du corps propre. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le corps propre comme condition concrète de toute expérience. La thèse directrice du livre est que le corps ne doit pas être compris seulement comme un organisme observable parmi les objets du monde. Il est aussi le corps propre, soit le point de vue vivant depuis lequel un monde apparaît. Je ne commence pas par constater un corps extérieur, puis par lui attribuer une conscience, je me meus, je regarde, je touche et j'agis déjà à travers lui. Cette distinction permet à Merleau-Ponty de critiquer le dualisme cartésien. Une conscience pure ne pourrait pas expliquer de manière satisfaisante l'orientation pratique. La familiarité avec les lieux ou la capacité à accomplir des gestes sans calcul explicite. Le corps possède un savoir pratique, souvent silencieux, qui rend possible notre rapport immédiat aux choses. Saisir un objet, marcher dans une pièce ou adapter son geste à une situation ne suppose pas que l'espace soit d'abord représenté comme une carte mentale complète. L'espace est vécu selon des directions, des possibilités et des prises offertes à l'action. Le corps propre est ainsi une structure de puissance et d'habitude. Il unifie les sensations, le mouvement et l'intention sans se réduire à une machine physiologique. Cette idée transforme le problème philosophique « il ne faut plus demander comment un esprit enfermé en lui-même rejoint le monde », mais décrire comment une existence corporelle habite le monde dès son origine. Deuxièmement, la perception comme ouverture active au monde plutôt que somme de sensations. Merleau-Ponty refuse le modèle empiriste selon lequel la perception partirait de données sensibles élémentaires ultérieurement organisées par l'esprit. Dans l'expérience ordinaire, nous ne recevons pas d'abord une addition de couleurs, de formes et de sons isolés. Nous percevons des configurations déjà porteuses de sens, une table, un visage, un chemin praticable, une voix inquiète. Cette unité ne relève pas nécessairement d'un jugement conscient. Elle appartient à la manière même dont le champ perceptif se structure. La psychologie de la forme aide ici à montrer que le tout perçu ne peut pas être déduit mécaniquement de fragments indépendants. Pourtant, Merleau-Ponty ne remplace pas une explication atomiste par une simple théorie scientifique des formes. Son objectif est de décrire la perception telle qu'elle est vécue, avec ses horizons et ses ambiguïtés. Toute chose apparaît sur un fond et ne se donne jamais sous toutes ses faces à la fois. Une perception est donc à la fois présence réelle de la chose et ouverture inachevée vers ce qui reste à voir. Cette incomplétude n'est pas un défaut à corriger par la pensée, elle définit notre accès normal au réel. Le monde perçu conserve une épaisseur qui appelle exploration, déplacement et confirmation. La perception constitue ainsi un contact actif avec le monde, non une copie intérieure de celui-ci. Troisièmement, le schéma corporel. L'habitude et les leçons des troubles perceptifs pour éclairer la cohérence pratique du corps vécu. Merleau-Ponty mobilise des observations issues de la psychologie et de la neurologie. Elles ne servent pas à fonder la philosophie sur la médecine, mais à mettre en évidence des structures que l'expérience habituelle rend discrètes. Les phénomènes de membres fantômes. Les difficultés motrices ou certaines altérations de la perception montrent que le corps vécu ne coïncide pas exactement avec le corps décrit par l'anatomie. Un membre absent peut continuer à compter dans la manière dont une personne se situe et agit virtuellement dans son environnement. Inversement, un trouble peut atteindre non seulement un mouvement localisé, mais la capacité de se projeter dans une situation et d'en saisir les possibilités. Le concept de schéma corporel désigne cette unité dynamique. Le corps ne se présente pas comme une collection de parties, mais comme un système de puissance orienté vers un monde. L'habitude joue un rôle analogue. Apprendre à utiliser un outil, à taper au clavier ou à conduire ne consiste pas principalement à mémoriser des règles. Le geste devient progressivement disponible et l'outil peut être intégré au champ des actions possibles. Ces analyses empêchent de réduire le comportement soit des mécanismes corporels, soit des décisions intellectuelles explicites. Elle montre que l'intelligence pratique est incorporée et que notre rapport au possible se modifie avec les capacités, les blessures et les apprentissages du corps. Quatrièmement, l'espace et le mouvement vécu avant toute géométrie objective. Dans cet ouvrage, l'espace n'est pas d'abord un contenant neutre mesurable par la géométrie. Il est l'espace d'un sujet qui peut se tourner, approcher, éviter, atteindre ou se perdre. Les notions de haut et de bas, de proche et de lointain, de droite et de gauche, prennent sens à partir d'une situation corporelle. Cette priorité de l'espace vécu ne nie pas la validité de l'espace scientifique, elle indique plutôt sa condition originaire. Pour mesurer et objectiver les choses, il faut déjà être situé dans un monde perceptif où les choses se détachent, résistent et offrent des directions d'action. Le mouvement confirme cette analyse. Il ne peut être adéquatement décrit comme le déplacement extérieur d'un corps, dont une conscience enregistrerait les positions successives. Dans le geste volontaire, le mouvement vise directement un but. La main se porte vers l'objet dans une intention motrice qui n'est pas une représentation détaillée de chaque contraction musculaire. Merleau-Ponty appelle attention sur cette visée pré-objective qui révèle une intelligibilité immanente au corps. Cette approche a des conséquences pour la compréhension de la motricité, de l'orientation et de l'apprentissage. Elle explique pourquoi un espace familier peut être parcouru avec aisance sans être mentalement cartographié. Et pourquoi une modification corporelle ou situationnelle peut bouleverser la manière même dont un lieu devient accessible. Le monde est ainsi vécu comme un réseau de possibilités concrètes avant de devenir un ensemble de coordonnées. En dernier lieu, autrui, le langage et l'ambiguïté irréductible de l'existence, la phénoménologie du corps débouche sur une conception non solipsiste de l'existence. Si le corps est expression visible d'une manière d'habiter le monde. Le corps d'autrui ne se présente pas seulement comme un objet dont il faudrait déduire l'existence d'une conscience cachée. Dans ses gestes, son regard, sa voix et ses conduites, autrui manifeste un style d'existence que je peux comprendre sans jamais le posséder entièrement. La relation intersubjective repose donc sur un monde commun et sur une expressivité corporelle, tout en conservant une distance irréductible entre les sujets. Merleau-Ponty étend cette analyse au langage. La parole authentique ne consiste pas simplement à vêtir une pensée déjà achevée de signes conventionnels. Elle peut accomplir et faire advenir une pensée dans l'acte même de s'exprimer. Le sens n'est ni enfermé dans une intériorité privée ni contenu tout fait dans les mots. Il se forme dans une situation historique, corporelle et partagée. Cette perspective explique aussi pourquoi le livre refuse les oppositions trop nettes entre intérieur et extérieur, sujet et objet, nature et culture. L'existence humaine demeure ambiguë, elle est à la fois corporelle et signifiante, individuelle et ouverte à autrui, conditionnée et capable d'initiative. Cette ambiguïté n'est pas une faiblesse théorique à éliminer. Elle est le fait fondamental que l'analyse phénoménologique doit préserver contre les systèmes qui simplifient l'expérience pour la rendre entièrement transparente. En conclusion, phénoménologie de la perception s'adresse en priorité aux étudiants et chercheurs en philosophie, mais son intérêt dépasse le cadre universitaire. Les lecteurs attentifs aux sciences cognitives, à la psychologie, aux études sur le handicap, à l'esthétique, à la théorie du langage ou aux pratiques centrées sur le corps y trouveront des outils conceptuels durables. Le bénéfice intellectuel essentiel du livre est de modifier la question même de la connaissance avant de représenter le monde. Nous y sommes engagés par la perception, le mouvement et les habitudes. Cette thèse permet de penser avec plus de précision l'expérience concrète, y compris ses fragilités, sans la réduire à un mécanisme neuronal ou à une conscience désincarnée. La lecture demande cependant de la patience. Merleau-Ponty avance par description, discussion critique et retour sur les mêmes problèmes sous des angles distincts. Il ne propose pas un manuel de notions immédiatement séparables. C'est aussi ce qui le distingue de nombreux ouvrages de philosophie de l'esprit ou de psychologie de la perception. Au lieu de choisir entre explication scientifique et analyse purement subjective, il cherche le niveau originaire ou un corps vivant. Un monde perçu et une communauté de sens se constituent ensemble. Par rapport à des existentialismes davantage centrés sur la liberté réflexive, son apport spécifique est de montrer que toute liberté prend appui sur une situation corporelle. Cette œuvre reste donc incontournable pour comprendre les théories contemporaines de l'incarnation et pour interroger les évidences ordinaires du voir, du toucher, du parler et de l'agir. Si vous souhaitez soutenir Maurice Merleau-Ponty, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.